Ma mère rêvait d'aller aux États-Unis. Je me souviens qu'elle collectionnait les guides de voyage, un pour chaque État. Pour la Floride, je voyais bien l'intérêt, mais pour le Nebraska, j'avoue que j'étais nettement plus réservée. Elle élaborait des road trips, sélectionnait des hôtels avec soin, notait les choses à faire et à voir, les démarches éventuelles à accomplir, puis elle rangeait tout ça dans des pochettes plastiques, une par État, prête à être ressortie le jour où. C'est pour ça qu'elle m'a appelée Ginger. Mon père n'a, paraît-il, même pas essayé de négocier. À défaut de pouvoir y vivre, j'étais son Amérique à elle, comme elle aimait à me le répéter. Nous regardions des documentaires, des films musicaux, et ne loupions aucun épisode de ses séries préférées. Dallas, Santa Barbara et Côte Ouest. Elle a pleuré comme une madeleine lors de la mort de Bobby Ewing après qu'il eut essayé de sauver Pamela. Je venais d'avoir 6 ans. C'est l'un de mes tout premiers souvenirs. Je ne comprenais pas grand-chose à ce que je regardais, mais j'étais émerveillée par la taille des maisons, toutes plus gigantesques et luxueuses les unes que les autres, à l'opposé du petit appartement dans lequel nous vivions à 3. Ma chambre était si minuscule que je pouvais à peine faire le tour de mon lit. Ma mère, elle, tentait, sans grande réussite, de copier le fameux brushing soap opera arboré par toutes les actrices à grands coups de crépage et de pchit de lac pour un rendu cartonné à souhait. Elle a même teint ses cheveux en blond pour parachever sa mauvaise copie de Joan Van Ark. J'ai des tonnes de souvenirs de nous deux assises dans ce massif canapé en cuir marron, un must de l'époque, acheté sur un coup de folie grâce à une prime de fin d'année. À la fin de chaque épisode, alors que retentissait le générique, qu'elle ne pouvait s'empêcher de fredonner, elle me répétait des étoiles plein les yeux qu'un jour nous irions. Que nous prendrions le tramway à San Francisco, que nous monterions en haut de la Statue de la Liberté, que nous frissonnerions au pied des chutes du Niagara ou que nous nous régalerions d'un jambalaya à la Nouvelle-Orléans. Ce jour n'est hélas jamais venu. Elle est décédée peu avant que je fête mes 18 ans. Pendant quelques mois après ça, j'ai refusé que l'on m'appelle Ginger et exigé qu'on utilise uniquement mon second prénom, Leslie, moins marqué de son empreinte. Quand la douleur a commencé à s'estomper, je suis redevenue Ginger. Ce prénom, je l'aimais bien au fond, même s'il ne rentrait pas dans le moule, même s'il me rappelait sans cesse que je l'avais perdu. Je n'ai pas pu me résoudre à me séparer de tous ces guides, ni à jeter tous ces projets de vacances. Tout est bien rangé dans des cartons entreposés au fond de mon dressing. Bon nombre d'hôtels qu'elle avait repérés ne doivent plus exister aujourd'hui. D'où lui venait cette fascination pour les États-Unis? Elle qui ne s'était jamais éloignée à plus de 500 kilomètres de chez elle. Mystère. Elle me disait que quelque chose l'y attirait, sans trop savoir quoi. Quelque chose qu'elle idéalisait, sans doute. Je ne suis pas allée chercher ce que cela pouvait être. La peur de trahir sa mémoire en ne ressentant rien était trop grande. Le jour de mes 18 ans, j'ai hérité de l'argent d'une assurance vie qu'elle avait souscrite. Mon père m'a appris qu'elle l'avait ouverte à ma naissance et qu'elle y déposait scrupuleusement une somme tous les mois. Pas toujours la même, mais toujours quelque chose. Comme pour les États-Unis, elle ne savait pas pourquoi. Elle devait sentir que c'était important qu'elle le fasse. Grâce à cette intuition, l'argent n'a plus été un problème pour moi, ce qu'enviaient certains de mes copains d'école de commerce, obligés de travailler pendant les vacances pour se faire un peu d'argent de poche. J'aurais travaillé tous les week-ends si ça m'avait rendu ma mère. Les gens ne voient que les conséquences et occultent la cause. Si l'argent n'est pas un problème pour une fille de 19 ans, c'est forcément qu'un drame a eu lieu. L'assurance vie, au fond, porte bien mal son nom. Sans doute, lui aussi rassuré que je sois financièrement autonome, mon père a mis les voiles quelques mois plus tard. À côté de ses pompes depuis la mort de sa femme, il avait besoin de prendre l'air, m'a-t-il expliqué, avant de prendre un vol sans retour et pour une durée indéterminée. Mon cœur étant déjà en miettes, je me suis contentée de lui souhaiter un bon voyage. Il m'envoie des cartes postales de temps à autre, parfois il lui prend même la lubie de m'appeler. Aux dernières nouvelles, il est au Népal en quête de spiritualité. Il ne sait pas que j'ai eu un cancer. Je ne compte pas non plus lui dire que je suis en récidive. J'étais plutôt bonne élève, pas parmi les plus passionnées, mais de celles qui ne rechignent pas à la tâche. J'aimais faire ce qu'il y avait à faire. Rien ne me procurait plus de satisfaction que de mettre une coche chaque soir devant les devoirs terminés. Gamine, je jouais souvent à la directrice. Je m'inventais des tâches à accomplir que je notais sur un carnet pour le plaisir d'avoir à les organiser ensuite. Mon père m'avait rapporté un long agenda noir de son entreprise. J'y inscrivais des rendez-vous fictifs et je prenais note de ne pas oublier d'en informer mon assistante. Je me souviens même avoir créé tout un listing de clients sur des petites fiches Bristol de différentes couleurs. Je faisais semblant de recevoir des appels et m'agaçais d'être tout le temps ainsi dérangée. C'est sans doute ce qui m'a conduite en école de commerce après mon bac. Je voulais créer quelque chose, je voulais prendre les décisions, même les plus insignifiantes, comme déterminer la couleur des murs en salle de pause. Je ne voulais pas subir les choix faits par les autres, ou pire, attendre qu'ils soient faits en bouillant de l'intérieur. J'imagine qu'un psy me renverrait à mon enfance, à ma mère fantasmant des voyages aux États-Unis, complétant des pochettes en plastique, mais réservant chaque année 15 jours dans le même camping à Palavas-les-Flots. Fantasmer, attendre, subir, autant de mots incompatibles avec ma personnalité. Certains de mes collaborateurs diraient, avec mon sale caractère, je préfère celui de tempérament. Pourquoi la restauration? À vrai dire, il n'y a pas vraiment de vocation. Ça doit tenir à peu de choses, peut-être aux séries de mon adolescence, elles aussi américaines. Le Peach Pit, le Max, ou encore le Central Perk. Autant de lieux de convivialité qui m'ont donné envie d'en pousser la porte, de m'asseoir sur un de leurs bancs en vinyle et de passer commande d'un cheeseburger frites. Tout le monde avait l'air heureux dans ces endroits. Heureux d'y travailler, heureux de venir y manger. Un soir, je me suis endormie en pensant que ça devait être chouette de posséder un restaurant. Je me suis réveillée le matin en me disant que j'allais le faire. Moi qui avais envie de prendre des décisions, j'allais être servie. Quoi de plus grisant qu'un restaurant où l'on peut choisir jusqu'à la forme des petites cuillères? Assurément rien. J'ai profité de mes années d'études, des enseignements et des rencontres pour élaborer mon projet, le modifiant sans cesse au début, de restaurant gastronomique à restaurant de tapas en passant par restaurant de sushi, puis le polissant sur la fin. Ce qui, en revanche, n'a jamais bougé, c'est le nom. Chez Ginger. C'est la première décision que j'ai prise au réveil ce matin-là dans mon lit, avant de me précipiter pour attraper un calepin et en dessiner le logo. Au bout du compte, j'ai reproduit le paradoxe de ma mère. Alors qu'elle n'avait jamais voyagé, et moi non plus, j'ai ouvert un restaurant spécialisé dans les cuisines du monde, dont la carte change au gré des envies et des lubies du chef. Je n'allais pas me mettre au fourneau, bien consciente de mes limites en la matière. Ma seule tentative de réalisation d'une sauce hollandaise s'étant soldée par un magma épais et acide. Faute d'être celle qui mitonne les plats, je me suis consolée en choisissant le cuisinier. L'un des plus difficiles recrutements de ma vie professionnelle. Je me suis trompée deux fois avant de tomber sur Thomas. Thomas et son sale caractère, devrais-je préciser. Thomas et son tempérament, rectifierait-il. Nous étions faits pour nous entendre et nous engueuler. C'est un cuisinier de génie capable de sublimer jusqu'à des épluchures. Hélas, pourvu d'un énorme défaut, il veut toujours avoir raison. Et comme par principe, c'est moi qui suis dans le vrai, ça provoque des étincelles. Chez Ginger, ce restaurant a été toute ma vie, pendant près de 20 ans. Du dessin du logo à la signature de l'acte de vente, il y a un peu plus de 6 mois maintenant. 20 ans à vivre pour lui, à penser d'abord à lui, à l'aimer sans concession. Chaque détail a été pensé par moi. J'avais encore tellement d'idées, tellement d'envie. Je me suis persuadée que le cancer ne changerait rien. Je serais certes obligée de m'arrêter quelques semaines, peut-être quelques mois pour me soigner, mais je reviendrais avec l'énergie encore plus grande de ceux qui ont combattu et vaincu. J'aurais dû sentir que les choses ne se dérouleraient pas telles que je les avais imaginées. Dès mon premier rendez-vous avec l'oncologue et la tête qu'il a faite lorsque je lui ai dit que je travaillais dans le secteur de la restauration, j'aurais dû le deviner. J'ai choisi de ne pas le faire. J'ai choisi la détermination. J'avais confiance en moi, en ma volonté farouche de surmonter cette épreuve. Certains disent que lorsqu'on veut, on peut. J'ai longtemps été de cela. Avant de comprendre avec douleur que ce n'était pas toujours le cas. Que la tête et le corps sont deux choses distinctes, avec chacun leur pouvoir et aussi leurs limites. Ma tête voulait, plus que tout. Mon corps, lui, ne pouvait pas. Le cancer l'avait malmené à un point que je n'avais pas mesuré, jusqu'à celui de non-retour.